Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous passons à la lecture des textes sur lesquels reposeront la prédication. Le premier se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et ce seront les versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et encore un passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33. C'est donc Jésus qui parle et qui dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Aujourd'hui, la prédication nous sera apportée par notre pasteur, Timothée.
Pour triompher, il faut vaincre. C'est trivial. Pour triompher, il faut vaincre. Et le seul qui peut vaincre notre incrédulité et notre incompréhension, c'est le Saint-Esprit, sur qui nous comptons ce matin pour œuvrer dans les cœurs de chacun, dans nos cœurs, dans mon cœur également. Nous poursuivons aujourd'hui la série sur l'épître selon Jean, la première épître selon Jean, et nous avons déjà pu comprendre que Jean n'a pas écrit une lettre linéaire, c'est-à-dire qu'il commence par un point, ensuite un deuxième, un troisième, hein, par exemple on parle de l'amour, après on parlera de la foi, après de l'obéissance. Non, en fait, Jean n'écrit pas de cette manière son épître. Il l'écrit en fait par amplification. Il revient régulièrement sur les mêmes sujets et il les amplifie ou il les montre d'une autre facette. Et nous avons déjà parlé ensemble du test social. Test social, où ça fait un certain temps qu'on a vu ça ensemble, hein. C'est en fait le test de l'amour, qui est en fait comme un parfum qui embaume toute la lettre de Jean. On le trouve partout. Nous avons vu ensemble cette notion du test doctrinal, qui est l'objet de la foi, et également très présent dans la lettre. Et le troisième test, le test moral, qui se traduit par la mise en pratique des commandements de Dieu. Voilà, plusieurs choses qu'on a déjà vues, en fait. Et on voit que des éléments, ben, on va encore les retrouver aujourd'hui, encore d'une autre manière. J'aimerais vous faire un petit voyage dans la Bible maintenant, simplement en vous énumérant un petit peu les termes que la parole de Dieu utilise pour parler des enfants de Dieu. Il y en a toute une série. Et tous ces termes, en fait, que la Bible utilise, sont des caractéristiques qui définissent ce qu'est un enfant de Dieu ou quels sont ses privilèges. Vous êtes prêts? On les appelle les croyants, les chrétiens, les enfants de lumière, les enfants de la promesse, les enfants du jour, les fils du royaume, les amis de Jésus, les frères, les brebis, les saints, les soldats, les témoins, les économes, les concitoyens des saints, les lumières du monde, en fait, les élus, le peuple choisi, les appelés, les ambassadeurs de Christ, les héritiers, les sarments de la vigne, les membres du corps de Christ, les pierres vivantes, les bien-aimés de Dieu, les disciples de Christ, les fils d'Abraham, les lettres de Christ, les serviteurs de Christ, les esclaves de Christ, les ministres de Christ, les compagnons de service, les personnes pieuses, le peuple de Dieu, un sacerdoce royal, le sel de la terre, un vase d'honneur, les justes, les étrangers et voyageurs, les membres de la maison de Dieu. En fait, on pourrait encore un peu continuer, et puis pour chacun s'arrêter, voir, mais qu'est-ce que ça signifie pour le croyant? Chaque élément amène un aspect différent. En fait, comme un diamant aux multiples facettes, chacune de ces appellations révèle un trait de caractère, de bénédiction ou de privilège propre aux croyants, aux enfants de Dieu. Et dans le passage de Jean, qui est l'objet de réflexion aujourd'hui, eh bien, il révèle encore une autre chose que je n'ai pas énumérée ici dans toute cette liste. C'est que les croyants sont appelés des vainqueurs, ou ceux qui triomphent du monde. Ceux qui triomphent du monde. Alors là, c'est intéressant quand même, on fait pas du grec ensemble, mais il y a des mots des fois qui sont intéressants. Et ici, il est intéressant de savoir que les Grecs utilisaient régulièrement un terme que Jean emploie ici. C'est le terme Nikao, ou Nike, ou Nike, si vous voulez, hein, avec tous ses dérivés. Et en fait, les Grecs pensaient qu'aucun mortel, aucune personne comme vous et moi qui sommes mortels, ne pouvait réellement remporter la victoire. Cela était uniquement réservé aux dieux. Et il y avait même une déesse qui s'appelait Nike, et qui en fait aidait Zeus là dans ses batailles contre les titans. Alors, en ayant un petit peu ce contexte des Grecs, eh bien nous comprenons un peu mieux que ce que Jean a dit ici a dû faire sensation, en attribuant la victoire Nike hein, aux chrétiens, car elle était normalement uniquement attribuée aux dieux. Or que Jean dit ici, mais les chrétiens sont victorieux. Bon, quand j'ai dit Nike, vous avez pensé à la marque de sport Nike. Ben, effectivement, cette marque de sport s'est basée sur cette notion de la déesse de la victoire. On va christianiser tout ça maintenant. Comme ça, dès que vous verrez la marque Nike, vous vous souviendrez que l'apôtre Jean, justement, a permis de comprendre que les croyants sont victorieux. Victorieux en Christ. Donc chaque fois que vous verrez la petite marque Nike, là c'est un petit vu, hein, vous dites, ah, le chrétien est victorieux, il triomphe du monde par Christ. Jésus lui-même a utilisé ce terme d'ailleurs dans Jean 16, 33, on l'a lu tout à l'heure, lorsqu'il dit, je vous ai parlé ainsi, hein, il parle à ses disciples différentes choses, des choses pas forcément faciles qui allaient se passer, mais je vous ai parlé ainsi parce que vous avez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai Nikao, j'ai vaincu le monde. Et c'est sur cette victoire que reposent toutes les autres victoires, en fait, du croyant. Hein, comme Paul le dit dans Romains 8, 37, c'est très clair. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Et en Jésus-Christ, les croyants, en fait, sont invincibles. Vous saviez ça? En Christ, les croyants sont invincibles, impossible de les conquérir. Ce qui fait que, après Romains 8, 37, on a Romains 8, 38, qui dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça suit directement ce verset qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Donc Jean, au début de ce chapitre 5, décrit ceux qui triomphent du monde. Nous allons donc voir les caractéristiques de ceux qui triomphent du monde et dans un deuxième temps, voir comment ils triomphent du monde. C'est nos deux points en fait. Hein. C'est les caractéristiques de ceux qui triomphent du monde et comment nous allons le vivre. Et le titre de cette prédication est « Qui est celui qui triomphe du monde ?» Alors commençons par voir les caractéristiques. Nous en trouvons 6 dans le texte. Et nous allons les voir dans l'ordre d'apparition. Je vous invite toujours à vos Bibles ouvertes, évidemment, dans 1 Jean 5. Et en passant dans le texte, eh bien, on va voir ces 6 éléments. Le premier, il est au verset 1, et on le retrouve aussi au verset 4 et 5. Donc, celui qui triomphe du monde croit que Jésus est le Christ. Croit que Jésus est le Christ. Il a la foi. Celui qui triomphe du monde croit que Jésus est le Christ. il a la foi. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, verset 1 et verset 4, il est né de Dieu. Il est né de Dieu, engendré de Dieu. On va en parler courtement par la suite. Hein. Ensuite, troisièmement, il aime Dieu qui l'a engendré. Deuxièmement, c'est qu'il est engendré de Dieu, il est né de Dieu. Et troisièmement, il aime Dieu qui l'a engendré. Quatrièmement, celui qui est victorieux, donc qui triomphe du monde, aime ses frères qui sont nés de Dieu. Verset 2. Cinquième élément, il pratique les commandements de Dieu. Verset 2 et 3. Il pratique ses commandements. Et sixième élément, il ne trouve pas les commandements de Dieu pénibles. Celui qui triomphe du monde ne trouve pas les commandements de Dieu pénibles. Voilà, c'est les six caractéristiques que l'apôtre Jean ici nous donne dans ce texte de 1 Jean 5, 1 à 5. On va les classer en quatre groupes, puis on va parler de ces quatre groupes. Le premier groupe, eh bien, c'est la nouvelle naissance. Celui qui triomphe du monde est né de Dieu. Deuxième groupe, c'est la foi. Celui qui est né de Dieu croit que Jésus est le Christ, il a la foi. Troisième, c'est l'amour. Il aime Dieu, il aime ses frères et sœurs. Et quatrième, c'est l'obéissance. Il pratique les commandements de Dieu et ils ne sont pas pénibles pour lui. Ça va? Quatre choses, hein? La nouvelle naissance, la foi, l'amour, l'obéissance. Ça nous aide à la retenir. Alors prenons quelques instants pour parler de ces parties. Premièrement, la nouvelle naissance. En 1 Jean 5, 1, il est dit, vous pouvez regarder, hein, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » C'est intéressant ici que les temps verbaux dans l'original ne laissent aucun doute ici. C'est parce qu'il est né que le chrétien croit. Et ce n'est pas parce qu'il croit qu'il est né. J'ai l'impression que je joue avec les mots, mais c'est vraiment important. Donc ce n'est pas parce qu'il est né que le chrétien croit. Que le chrétien croit. Ce n'est pas parce qu'il croit qu'il est né. La nouvelle naissance, la régénération, est une œuvre antérieure à la foi. C'est une œuvre que Dieu fait dans sa souveraineté, qui permet de croire, qui permet d'avoir la foi. Et nous n'avons pas à nous préoccuper de comment nous pouvons naître de nouveau. C'est pas nous qui le faisons. Donc ce matin, si je vous dis croyez en Jésus-Christ, vous n'allez pas dire attends. D'abord, je regardais si je suis né, hein. Mais non, croyez. Croyez en Jésus-Christ. Et vous verrez ainsi que la nouvelle naissance a eu lieu. Et lorsque je parle de croire ici, c'est pas simplement un acquiescement intellectuel, évidemment, mais plutôt une consécration permanente et totale à Dieu. C'est ça, croire. Jean a rapporté la discussion entre Jésus et Nicodème dans Jean 3, vous pouvez aller le relire, pour que nous puissions comprendre l'importance de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça signifie être né de nouveau, né d'en haut? Donc la première caractéristique de celui qui triomphe du monde est celle qui déclenchera d'ailleurs toutes les autres. C'est être né de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, nous ne pouvons pas triompher du monde. Ça, c'est évident. Donc la première caractéristique de celui qui triomphe le monde et qui déclenchera toutes les autres, c'est être né de Dieu. Ensuite, nous trouvons la foi. La foi n'est pas une croyance vide, mais une confiance totale que Jésus est le Messie, le Christ. C'est la même chose, hein. Messie, c'est du l'hébreu, puis Christ, c'est du grec, pour dire loin. Celui qui est choisi par Dieu. Celui que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. La foi, elle se base sur cela, en fait. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne croit pas selon la Bible. Jean, dans le prologue de l'Évangile, dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Hein, ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Ben ouais, il faut naître. En fait, la foi, c'est le cri du bébé qui vit. C'est ça, la foi. C'est le cri du bébé qui vit. Et s'il ne vit pas, il crie pas. Ou s'il ne crie pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Et si une personne n'a pas la foi, c'est qu'elle n'est pas née de Dieu. Vous voyez, c'est comme le cri de l'enfant. Si l'enfant crie, c'est qu'il est vivant. Si une personne a la foi, eh bien, cela est un élément qui nous permet de voir, ah ok, il y a une naissance. Après, on peut encore jouer à la foi, ça c'est une autre question. Mais c'est impossible d'être né sans la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il n'est pas né de nouveau, c'est pas possible.
Et cette foi est placée en celui seul qui peut nous sauver. Paul le souligne souvent dans ses écrits, nous l'avons entendu ce matin aussi, Marc l'a fait au début de culte, où il a parlé qu'on était sauvés par Jésus-Christ seul, il n'y a de salut en aucun autre par exemple. Ou bien dans 1 Corinthiens 3:11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ou 1 Timothée 2:5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Donc tout enseignement qui prétend qu'il est possible d'être sauvé sans la foi en Jésus-Christ est contraire à la Bible. C'est assez simple en fait. Donc tout ce qui prétend qu'on peut être sauvé sans Jésus-Christ, ça vient pas de la Bible. Et le test doctrinal nous a permis de comprendre que la foi est placée en quelqu'un de précis. Jésus, Dieu et homme. Jésus, le Messie promis. Jésus, le Christ et Fils de Dieu. Et la foi triomphe même face à la mort. Car celui qui a la foi peut dire comme Job. Job a dit quelque chose d'assez impressionnant. Écoutez ce qu'il a dit. Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Parce que j'ai la foi qu'il veut le meilleur pour moi. C'est fort, hein? C'est vraiment ce cheminement de cette foi ultime et que l'on peut tous vivre par la grâce de Dieu. Donc la deuxième caractéristique de celui qui triomphe du monde, c'est la foi, qui est d'ailleurs présentée comme étant la victoire. Pourquoi la foi, c'est la victoire d'ailleurs, hein? Donc cette deuxième caractéristique, c'est la foi qui est présentée comme la victoire. Eh bien, c'est exactement comme ce que vivaient les martyrs qui étaient mis au bûcher et qui chantaient les louanges de Dieu. On n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce possible? Eh bien, leur foi était leur victoire. Ils voyaient au-delà de ce qu'ils vivaient. C'était ça leur victoire. C'est exactement ce que vit celui qui ne se laisse pas abattre par les moqueries, par exemple, aussi. Ça me touche un peu plus que le bûcher, peut-être. Hein? Car il connaît son identité, sa destinée, malgré les quolibets du monde. Sa foi et sa victoire. Tranquille. On a la foi, on sait qui on est, même si les gens peuvent se moquer de nous. Notre foi nous amène à cette victoire. La foi permet de saisir tout ce que Dieu nous dit de lui-même et nous permet d'apprendre à l'aimer. Et c'est notre troisième caractéristique de celui qui triomphe du monde, l'amour. On en a déjà parlé dans 1 Jean de l'amour. De différentes manières. J'ai dit, Jean, ben, il revient, et il souligne des choses. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de le faire d'une certaine manière. C'est de parler de l'amour par contraste. Donc, on va commencer par parler de qu'est-ce que l'amour du monde. Et puis ensuite, ben, on va faire le contraste. Donc, 4 étapes que je donne. Puis, 4 étapes, ben, on les reprendra évidemment. La première étape, ça commence par l'amitié pour le monde. Jacques 4:4 le dit. On cherche à s'accommoder, à trouver du plaisir dans les choses du monde. C'est commencer par l'amitié du monde. C'est la première étape. Deuxième étape, au contact du monde, il va infliger sa souillure. En fait, on prend l'odeur du lieu où on va, même si on le veut pas. C'est un petit peu changé maintenant, mais à l'époque, les lieux publics n'étaient pas interdits à la fumée. Vous arriviez dans un lieu public où des gens fumaient, même si vous ne le vouliez pas, vous aviez l'odeur. Troisième étape. L'amour pour le monde va se développer. En fait, on développe l'amour pour ce que nous côtoyons régulièrement et que nous recherchons. Ça, on va développer l'amour pour ce qu'on voit régulièrement et ce qu'on recherche. Et quatrième étape. Bien, la conformité au monde va s'installer. On s'adapte, on se conforme à ce que nous aimons, à ce que nous recherchons. On devient ce qui nous influence le plus, si vous voulez. On devient ce qui nous influence le plus. Alors, ces 4 étapes ici utilisées pour l'amour du monde, eh bien, on peut aussi les prendre pour apprendre à vivre l'amour avec Dieu. Nous pouvons, premièrement, cultiver l'amitié avec Dieu, avec Christ. Abraham a été appelé l'ami de Dieu, d'ailleurs. Pourquoi? Ben, parce qu'il prenait du temps avec lui, tout simplement. Il lui parlait. Jésus a décidé à ses disciples, vous êtes mes amis. Donc, comment cultiver cette amitié avec Dieu? Eh bien, en passant du temps avec lui. Par exemple, lorsqu'on lit la parole de Dieu, hein, c'est une parole qu'il nous a donnée, eh bien, on la lit en désirant vraiment connaître son avis. Pas en allant chercher des choses qui nous arrangent. Je vais la lire, puis je me dis, attends, mais c'est lui qui est en train de me parler. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Quel est son avis? Et je suis prêt à changer dans ma vie si ce qu'il me dit est différent de ce que je pense. Ou bien, ça c'est dans cette notion aussi de recevoir de lui, ou bien en priant, en lui disant franchement ce que nous vivons. Je sais pas comment vous priez, parfois, quand vous êtes seul. Mais n'hésitez pas à lui ouvrir votre cœur. Il sait tout. Il va pas être surpris par ce que vous lui dites. Il n'y a pas besoin de lui cacher quelque chose. Nous pouvons lui parler. Et c'est ainsi que l'amitié se développe avec Dieu. Quand on les libre avec quelqu'un, eh bien, les liens, petit à petit, grandissent. Deuxièmement, au contact de Christ, il va influencer notre vie, en fait. Plus on est avec, plus il nous influence. Et la sainteté va se développer petit à petit. Puis là, comment être influencé par Dieu? Ben, c'est pas bien compliqué, en fait. Faut simplement mettre en pratique ce qu'il nous demande, ce qu'on comprend. Voilà. Pas besoin de chercher des grandes choses à faire. Il me demande de prendre soin de quelqu'un, il me demande de répondre poliment, il me demande si quelqu'un m'énerve, eh ben de pas m'énerver en retour. Mais de répondre calmement, peut-être de lui dire que la façon dont il agit, ben c'est une façon qui n'aide pas, ok, hein. Mais, voilà, mais ça c'est ce que Dieu nous demande, simplement, des choses simples. Donc au contact de Dieu, de Christ, il va influencer notre vie. Troisième étape, l'amour pour Dieu va augmenter. Plus nous le connaîtrons et comprendrons qui il est, plus nous allons l'aimer. Quand vous commencez à comprendre ce qu'il a fait pour nous, qui il est, l'amour qu'il a pour nous, vous allez commencer à l'aimer encore plus. Et cinquième élément, c'est la conformité à Christ qui va s'installer. Dieu agit de manière à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Plus nous aimons Dieu, plus nous lui ressemblons. C'est souvent comme ça. Plus nous aimons, plus nous ressemblons. Et l'amour est donc dirigé vers celui qui nous a engendrés. On le voit au verset 1. Et ça, c'est Dieu qui nous a engendrés. Et aussi vers celui qui est né de lui. C'est l'enfant de Dieu. Et l'amour que nous avons pour Dieu est totalement libre de toute peur. Souvenez-vous, on a vu ça, hein? L'amour parfait bannit la crainte. Waouh! Quand il n'y a plus de peur, c'est extraordinaire. La peur a disparu. Et quand la peur a disparu, eh bien, l'obéissance au commandement de Dieu se développe à partir de l'amour et non pas à partir de la terreur. Qu'est-ce qu'il va me faire si je fais pas ce qu'il a demandé? Ça, c'est la peur. Tandis qu'on se dit, attends, mais ce qu'il me demande, c'est toujours bon. Donc, je vais y aller. La troisième caractéristique, l'amour chrétien n'est pas une émotion passagère. C'est un don de soi permanent. Un profond désir de plaire à Christ et d'accomplir sa volonté de celui qui a triomphé du monde. C'est ça. Hein. La troisième caractéristique de celui qui triomphe du monde, c'est l'amour chrétien, qui n'est pas une émotion passagère, mais qui est un don de soi permanent, un profond désir de plaire à Christ et d'accomplir la volonté de celui qui a triomphé du monde. Si la troisième caractéristique de celui qui triomphe du monde est l'amour, la quatrième manifeste sa foi et son amour, et c'est l'obéissance, l'obéissance au commandement. Quelqu'un a dit ceci. Oh, j'ai dû réfléchir pour comprendre cette phrase, donc si vous devez réfléchir, c'est pas grave, hein, ça fait partie. Quelqu'un dit ceci, que la foi n'est pas tant croire en dépit des circonstances, mais obéir en dépit des conséquences. Je vais la redire. Donc la foi n'est pas tant croire en dépit des circonstances, donc on croit que ça va bien se passer même si c'est difficile, mais obéir en dépit des conséquences. Donc c'est une foi agissante, malgré les conséquences qu'on ne connaît pas forcément. On connaît les conséquences à long terme, mais pas toujours celles à court terme, ou bien on connaît qu'elles sont parfois difficiles dans un premier temps. Donc garder les commandements de Dieu n'est pas une action ponctuelle. Dans le texte, il est dit ici qu'on garde les commandements. C'est pas ponctuel, c'est un engagement habituel. Celui qui aime Dieu considérera ses commandements comme un précieux trésor. Si vous voulez savoir comment voir la Bible, les commandements de Dieu comme un précieux trésor, vous prenez votre Bible, vous l'ouvrez dans quoi? Psaume 119. C'est un poème d'amour pour la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu dans tous les versets. Il y en a pas mal, hein, dans le psaume 119. Et il manifeste cette grâce de dire, mais c'est précieux, ces commandements de Dieu. Parce qu'il sait que jamais, jamais, là je vous mets au défi, hein, mais jamais Dieu ne vous demandera quelque chose de mauvais. Jamais. Jamais. Et quand je dis quelque chose de mauvais, C'est selon ses critères à lui, évidemment. Pas selon mes petits critères de bien-être. On s'entend bien. L'obéissance est un thème important pour Jésus. Il a dit lui-même, en Matthieu 12, 50, « En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là... » Donc, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. C'est Jésus qui dit ça. C'est très fort. Et dans la chambre haute, lors de son dernier souper avec ses disciples, il a souligné le lien entre l'amour et l'obéissance. Hein? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et voici ce que dit John MacArthur dans son commentaire, je vous le cite. L'obéissance qui caractérise l'enfant de Dieu véritable n'est pas une conformité extérieure, rituelle ou légaliste. Pas plus qu'elle ne se fait à contre-cœur, en partie de manière inconstante ou en mot gérant. L'obéissance empreinte d'amour vient du cœur. Et elle est intentionnelle, totale, constante et joyeuse. Fin de citation. Donc celui qui obéit à Dieu par amour ne trouvera pas ses commandements pénibles. Je vais l'expliquer maintenant. Donc ne pas trouver les commandements de Dieu pénibles, en fait c'est triompher du monde. Ça c'est intéressant dans le texte. Ne pas trouver les commandements de Dieu pénibles, c'est triompher du monde. Ça vous le voyez ici. Verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. En fait, c'est le monde qui voit les commandements de Dieu comme étant pénibles. C'est le monde qui voit cela. Pourquoi ? Parce que ses commandements l'empêchent de pécher comme il voudrait. Il l'empêche d'avoir certains plaisirs illicites pour protéger leurs relations. Ces commandements les empêchent de tricher pour garder l'intégrité. En fait, le monde aime ce qu'il appelle la liberté. Enfin, je vais vous préciser. La liberté de pécher. C'est ça que le monde aime. De ne pas se soucier des autres lorsque son propre intérêt est en jeu. De laisser libre cours à ses passions. Mais les conséquences sont lourdes, les amis. Les conséquences sont lourdes. La conscience chargée, les relations compliquées ou brisées à cause de l'infidélité ou du mépris, le cercle infernal du mensonge pour masquer un autre mensonge. Non, vraiment, les commandements de Dieu qui nous permettent d'avoir une bonne conscience, des relations saines et ouvertes, l'accès à la grâce et au pardon, vraiment, ces commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Car les conséquences font partie de la mesure de la pénibilité. Pas seulement l'effort à fournir pour vivre les commandements. Et les conséquences sont tellement désastreuses à long terme par rapport à ne pas suivre les commandements de Dieu, que l'effort à fournir pour les vivre devient en fait très petit en comparaison. Franchement, si vous avez dit la vérité à quelqu'un, peut-être que vous devez dire quelque chose que vous avez fait qui n'était pas très sympa, c'est peut-être sur le moment un peu difficile. C'est vrai, donc pénible, vous allez dire. Ouais, mais dès que la personne l'a reçu et vous a pardonné, après, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la conscience tranquille. C'est plus pénible du tout. Tandis que si vous mentez, et chaque fois que vous voyez cette personne, ou si jamais il va trouver ce que j'ai fait, ça va mal se passer, c'est toute une vie qui devient pénible. Est-ce que les commandements de Dieu sont pénibles? La quatrième caractéristique de celui qui triomphe du monde, c'est donc l'obéissance aux commandements de Dieu qui ne lui sont pas pénibles. La foi, l'amour, l'obéissance sont entremêlés ici et indissociablement liés pour former les caractéristiques de celui qui est né de Dieu et qui triomphe du monde. Mais alors, c'est quoi triompher du monde? Comment le vivre? C'est notre deuxième point qui sera plus court. Alors, tout d'abord, de quel monde parlons-nous? Parce que bon, on peut parler de ce terme, en fait, signifie un tas de choses. Le monde, Dieu a créé le monde, par exemple. Toute sa création. Eh bien non, il ne s'agit pas de toute la création. En fait, ce terme monde, ici, dans ce texte, est en lien avec ce que Jean lui-même a défini dans 1 Jean 2. Donc, vous pouvez venir en arrière dans votre Bible, là, c'est pas très loin. 1 Jean 2, les versets 15 à 17. Je vais vous les relire, comme ça nous verrons à quel monde l'apôtre Jean pense ici. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et là, il explique. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est de ce monde-là, en fait, qu'il est question ici. C'est de ce monde-là qu'il est question lorsque l'on parle de triompher du monde. Triompher, c'est pas être un héros qui flotte au-dessus de la mêlée, qui a combattu, qui a mis à mort un tas de personnes, et puis qui par ses propres forces est le vainqueur. Non. Désolé, hein, si vous aviez cette idée-là. Non, triompher du monde, c'est pas ça. En fait, triompher du monde, c'est d'abord laisser triompher Christ dans notre vie. Donc le triomphe commence par une défaite pour nous, mais qui sera évidemment une victoire. Christ va triompher dans notre vie. Et nous avons plusieurs textes qui nous encouragent à aller vers notre Dieu, qui est une tour forte. Hein, le Proverbe 18:10, par exemple, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte, complètement victorieux, hors d'atteinte, en Dieu, dans cette tour forte. Et Lloyd-Jones dit ceci, je trouve intéressant ce qu'il nous rapporte ici. Une des plus grandes leçons que l'on peut apprendre en tant que chrétien, c'est une des plus grandes leçons. Vous êtes prêts? C'est la possibilité directement, immédiatement et totalement de se reposer sur la puissance et la capacité de notre Seigneur ressuscité. C'est juste magnifique ça. C'est une leçon extraordinaire. Si on saisit ça, mais... On va entrer dans cette vie de triomphe. Hein. Une des plus grandes leçons que l'on peut apprendre en tant que chrétien, c'est la possibilité de directement, immédiatement et totalement se reposer sur la puissance et la capacité de notre Seigneur ressuscité. Un petit récit ici qui un petit peu souligne cette notion. Un homme un jour était dans le Far West. Il y en a qui aiment le Far West. Et il voyait avec grande tristesse des hommes dépenser tout ce qu'ils avaient gagné en boissons dans les saloons, en laissant femmes et enfants sans revenu. Et un jour, il accoste un de ces cowboys et il lui explique les conséquences de ses actes, ainsi que les bénéfices d'arrêter ses dépenses. Et le cowboy lui répond, mais je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi, mais cette bouteille est plus forte que moi. Et l'homme lui parle alors de Jésus-Christ, qui donne la force de résister. Ils parlent ensemble. Une année plus tard, l'homme retrouve son cow-boy totalement changé. Et il lui demande ce qui s'est passé. Il lui dit, mais lors de la dernière paye, ce qui s'est passé, c'est que mes amis m'ont invité à aller boire un verre. Et je suis allé avec mes amis. Et en chemin, je me suis rappelé le nom de Jésus. Ce simple rappel du nom de Jésus a permis à cet homme de ne pas aller jusqu'au saloon, mais de rentrer chez lui. Et par la suite, ben il y a bien sûr, hein, c'est par étapes que tout se vit, eh bien c'est toujours en regardant vers Christ qu'il a pu petit à petit être totalement détaché de ce vice qui était une catastrophe pour lui-même et sa famille. Et il disait que, en fait, son désir de boire s'était estompé petit à petit à la proportion inverse de son amour pour Jésus. Et ça, c'est un élément important. Des fois, on va aller combattre le péché. C'est bien, je ne vais pas vous retenir de le faire. Mais je vais vous retenir de le faire si vous ne faites pas d'abord quelque chose. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Avant de combattre le péché, il faut placer et exercer sa foi en Christ. Si vous y allez par vos propres forces, sans aller à Christ, sans se cacher en lui, j'ai pas besoin d'être prophète pour vous annoncer la défaite imminente. C'est que avec Christ que nous pouvons être vainqueurs. C'est en lui que nous pouvons être vainqueurs de ces péchés qui, parfois, sont récurrents dans nos vies. Il faut aller vers le Christ. Christ est vainqueur. Vous avez déjà saisi ça qu'il est vainqueur? Je donne une petite histoire pour vraiment aussi comprendre cette notion. Il y avait un homme blessé à la guerre de sécession. Suite à ses blessures, il pouvait plus travailler, donc il allait de maison en maison, de ferme en ferme pour demander de l'aide, pour vivre tout simplement. Et puis il disait qu'il était l'ami de Lincoln, le président Lincoln. Puis un jour, un de ses hôtes lui dit « Ouais, mais j'aimerais bien que tu me prouves que c'est ton ami. » Parce qu'on peut tous dire, hein, moi je suis l'ami de Lincoln, évidemment. Et il sort là un papier froissé de sa poche et il le montre à son hôte, puis il dit « Regarde, alors moi je sais pas vraiment bien lire, mais là il y a la signature du président Lincoln. » Et quelle n'est pas la surprise de l'autre en lisant ce papier, qui en fait donnait à cet homme une rente à vie suite à son service rendu à la patrie. Alors que lui, en fait, il allait de maison en maison pour demander un peu à manger, pour survivre. Et il avait sur lui un papier qui prouvait qu'il avait une rente à vie donnée par le président lui-même. Vous intéressez-vous à la victoire de Christ sur le monde? Avez-vous déjà lu ce papier que vous avez peut-être dans votre poche? Qui est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui est né de Dieu, qui vit la foi en Jésus-Christ, qui vit l'amour de Dieu, l'amour de ses frères et sœurs, et l'obéissance au commandement de Dieu. C'est celui qui voit la victoire par la foi, et qui sait que le meilleur est devant lui, lui permettant d'écarter les tentations du monde, car il sait par la foi qu'il aura bien mieux, déjà maintenant avec une conscience tranquille, et ensuite dans l'éternité auprès de notre Dieu, que tout ce que le monde pourrait lui promettre. Pour faire partie de ceux qui triomphent du monde, il faut premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Christ triomphe de nous, de toi, par la repentance. C'est comme ça qu'on le manifeste en fait. Quand il a triomphé de nous, en fait, on se repentit. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour mes fautes, pour tout ce qui est sale en moi. Je ne suis pas digne de venir vers toi. Je te demande pardon. Je te prie de me purifier. C'est ainsi que l'on vit cette situation. On est vaincu par Christ. Et on saisit par la foi qu'il a tout payé. Tout! Et en plus, vous avez même le petit papier avec vous là. Vous pouvez prendre avec vous. Signé par Jésus-Christ. Donc la question que j'aimerais vous laisser, fais-tu partie de ceux qui triomphent du monde? Nous allons prier. Éternel, c'est bien faible que nous venons devant toi. Mais c'est heureux de ta force. Oh Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être des super-héros, tu nous demandes d'être des super-amis. Des personnes qui aiment, des personnes qui s'intéressent à toi, des personnes qui saisissent les bienfaits de ta parole, de ton œuvre, de ta personne, de tes commandements, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés en suivant les commandements. Nous n'y arrivons pas. Nous savons que c'est Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a vaincu le monde. Mais nous savons aussi que tout ce que tu nous donnes dans ta parole est bon pour nous, est bon pour ceux qui sont autour de nous. Eh bien, donne-nous la grâce, Seigneur, par la foi, de triompher du monde. Et que dans les tentations qui sont devant nous, nous puissions penser à toi et nous détourner du mal. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.